Shalom tout le monde. Voilà, ben vous allez voir, c'est trépidant, c'est extraordinaire, c'est l'étude du Père Ekrelek. Évidemment, la capacité de transmettre le cours risque d'être entravée par le brouhaha des discussions internes parmi les assistants, mais nous espérons que ce n'est que passager et que nous pourrons donc vraiment transmettre une étude sérieuse et audible. Voilà. Alors nous en sommes donc dans le Père Ekrelek à la page 90b, c'est-à-dire Tzadik Amoud Bet. Dans l'édition que vous avez, l'édition classique, c'est page 180, ça vous donne. Et nous en étions aux entretiens entre Rabbi Yehoshua, entre Rabban Gamliel et les minimes. Les minimes, c'est-à-dire les premiers chrétiens, c'est-à-dire une secte juive qui par la suite est devenue le christianisme. Ce sont les minimes. Et les minimes posent la question suivante, c'est dans l'édition Vilna, c'est à la deuxième ligne large. Vous voyez, quand les lignes s'élargissent, il y a des lignes étroites, il y a des lignes larges, n'est-ce pas? Vous avez le texte ou pas? Alors, vous prenez la deuxième ligne large. Ceux qui veulent... Il y a encore une feuille là, j'ai découvert. Vous voyez là où il y a écrit... Là où là, les lignes s'élargissent. Vous prenez la deuxième ligne large. Ceux qui veulent une feuille peuvent en prendre. Voilà. Ah ben, il y en a. Alors, non seulement elles sont photocopiées, mais elles ne sont pas distribuées. Alors, c'est l'absurde total. C'est comme arriver à un lac, mais qui est glacé. On ne peut pas voir. Vous vous rendez compte? C'est terrible, une chose pareille. Donc, vous avez des feuilles photocopiées et vous ne les distribuez pas. Je ne saurais trop superlativiser pour exprimer mon étonnement. Bon, donc nous sommes à la deuxième ligne large. Sha'alou minin et Rabban Gamliel. Les minimes, c'est-à-dire les chrétiens, ont demandé à Rabban Gamliel. Minayin she'akadosh baruch hu mechaye metim. D'où savons-nous que Dieu ressuscite les morts? Alors vous vous rappelez qu'on avait étudié déjà, on avait commencé le texte, et que ce n'est pas que les chrétiens remettent en question la résurrection des morts. Au contraire, c'est admis par le christianisme. Les chrétiens admettent que les morts ressuscitent, mais pour eux, le seul point de référence pour savoir qu'un mort ressuscite, c'est le récit qu'il raconte de Jésus qu'il aurait ressuscité. D'accord? C'est-à-dire que toute autre source pour eux est en fait disqualifiée. Oui, quoi? Et alors? Ah! Pourquoi eux ressusciteraient, effectivement? Très bonne question, effectivement. Mais enfin, ils disent que ceux qui ont la foi en lui participent de son sort, donc ils ressuscitent aussi. Voilà. Donc, Amar Lahem, il leur a répondu, Mina Torah ou Mina Nevim ou Mina Ketuvim. On le sait par la loi écrite, par les prophètes et par les hagiographes. Torah, Nevim, Ketuvim. Velo kiblu mimenu, ils n'ont pas accepté ces arguments. Quand la Gemara nous dit que les arguments n'ont pas été acceptés, elle amène également les réfutations. C'est-à-dire, comment est-ce que les chrétiens ont réfuté les arguments de Rabban Gamliel? Oui? J'en sais rien. Pour l'instant, j'en suis à... C'est vrai que nous avons étudié le texte, mais je me permets de faire une récapitulation, ce qui va me permettre de prendre le microphone dans mes mains et de dire ce qui s'est passé. D'accord? Donc, les chrétiens en question réfutent les arguments de Rabban Gamliel et ne veulent pas entendre ce qu'il dit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la Guémara amène leur réfutation et que la Guémara n'y répond pas. C'est comme si elle avait accepté la victoire des chrétiens. C'est quand même vraisemblable, un truc pareil. À moins que la Guémara n'ait pour projet, oui. Ou bien qu'ils ne peuvent pas y croire à notre manière. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'il y a un abîme d'interprétation entre nous et eux. C'est-à-dire, quand un chrétien lit un verset de la Torah, il le lit automatiquement autrement que nous, que notre manière à nous. C'est-à-dire, il y a une prédisposition fondamentale qui fait que un verset ne peut pas être lu de la même manière par un juif ou par un chrétien. D'accord ? Alors, on va voir ça sur trois exemples qui nous sont amenés ici par la Guémara. Le premier, on a vu déjà les deux premiers. En fait, on a vu un et demi. Parce que le premier, on l'a étudié. Le deuxième, on a commencé à l'étudier. Alors, l'argument s'est tiré de la Torah. Mina Torah, dirtiv. De la Torah, parce qu'il est dit, nous sommes déjà à la troisième ligne large. Vayomer Hashem el Moshe. Et Dieu s'adressa à Moshe. Et lui dit, Incha shochev imavotecha vekam. Tu vas te coucher avec tes ancêtres et te relever. Donc on voit bien que s'il se couche avec ses ancêtres, c'est-à-dire qu'il va mourir, et qu'il se relève, ça veut donc dire que Dieu ressuscite les morts. D'accord ? Si, là-bas, ça veut dire mourir. Se coucher avec ses ancêtres, ça veut dire mourir. Les ancêtres sont déjà morts depuis longtemps, il va s'allonger avec eux, et il va se relever. Ça veut donc dire qu'il va ressusciter. D'accord ? Incha shochev imavotecha vekam. Amroulo, ils lui ont dit, Vedilma, peut-être qu'il faut lire autrement. Vekama amaze, vezana. Ce peuple se lèvera pour se prostituer. C'est-à-dire que le verbe vekam, que nous avons traduit, et tu te relèveras, en fait, ça veut dire tu te relèveras si on le colle au mot shochev. Tu vas te coucher pour te relever. Mais en fait, on peut très bien lire le verset autrement. Incha shochev et imavotera, tu vas coucher parmi tes ancêtres, point. Vekam ha'amazé, et ce peuple se lèvera. Vezana achare Elohe nechar ha'aretz, pour se prostituer auprès des dieux étrangers sur la terre. Et donc, le vekam n'a rien à voir avec le shochev. D'accord ? On avait étudié ça. Et en fait, au niveau de la toute première compréhension du texte, ils ont raison. Mais il faut en fait comprendre pourquoi est-ce que les Chachamim ont lu comme ils ont lu. Pour trois raisons. Tout d'abord parce que le mot, pour quatre raisons je dirais même. Tout d'abord parce que le mot vekam a été collé par la Torah au mot shochev. C'est quand même pas par hasard. C'est-à-dire, le se lever est à côté de coucher. Deuxièmement, parce que le mot se coucher, même s'il n'y a pas écrit tu te relèveras, implique de se lever. La Torah aurait pu employer le verbe mourir. Au lieu de cela, elle a employé le verbe coucher. Si on se couche, c'est pour se relever. Donc le fait même que la mort soit appelée couchage, cela implique déjà de se relever, indépendamment du mot vekam. Troisièmement, la deuxième partie du verset qui dit vekam a amazé, ce peuple se relèvera. Se relever, c'est faire le bien. Or, il se lève pour se prostituer. Or, la prostitution, c'est une chute, c'est pas un levage. C'est-à-dire que la Torah aurait dû dire venafal a amazé, et ce peuple tombera. Or, si la Torah dit vekam, ça veut dire qu'elle a employé un verbe inapproprié. C'est pour nous faire comprendre que c'est en rapport avec le Véchachav. Tout ça, ce sont les trois arguments, pour l'instant, techniques. Le quatrième argument, qui est l'essentiel, c'est que la Torah est fondamentalement optimiste. Or, si on voit ce que dit le verset dit comme ça. Puisque Moshe va mourir, le peuple va échouer. C'est absolument contraire à tout l'esprit de la Torah, qui est que l'histoire réussira un jour. Donc, si la Torah dit que quand Moshe meurt, le peuple échoue, ça veut donc dire que Moshe doit ressusciter, pour que ça n'échoue pas. Mais, qu'est-ce que répond le chrétien à cela ? Il dit non, mais pas du tout, moi je suis tout à fait d'accord avec que l'histoire échoue. C'est-à-dire, pour le christianisme, l'échec du peuple d'Israël, ça fait partie de sa théologie. Donc c'est tout à fait normal que le peuple ne réussisse pas, et donc ça fonde la théologie du remplacement. C'est-à-dire que le christianisme va remplacer le judaïsme. Donc vous voyez bien que ce verset ne peut pas être lu autrement par un chrétien. Donc ils n'ont pas pu accepter. C'est ici en fait une marloquette fondamentale entre une vision optimiste de l'histoire d'Israël et une vision pessimiste. D'accord ? Donc ils n'ont pas pu accepter ce verset. C'est ce que nous avons déjà vu la semaine dernière. Et nous allons continuer. La deuxième, c'est Mina Nevin. Dirtiv, parce qu'il est dit. Là nous sommes déjà à la cinquième ligne large. La cinquième large ligne. La large cinquième ligne. Enfin, c'est de la prose. Bon, Yichyu Metecha, c'est un verset dans Yeshayahu, Isaïe. Yichyu Metecha, tes morts revivront. Nevelati Yekumun, leur cadavre se dressera. Hakitsu veranenu, shochne afar. Éveillez-vous, réjouissez-vous, résidents de la poussière. Si c'est qui les résidents de la poussière? Les morts. Kital orot talecha, car ta rosée est une rosée de lumière. Va aretz refaim tapil, et tu abats les géants au sol. Donc on voit bien que le prophète dit en toutes lettres que les morts vont ressusciter. Soit dit en passant, il y avait au sein du judaïsme, à l'époque du deuxième temple, il y avait ce qu'on appelait les sadducéens, la secte des sadducéens, qui, elle, n'admettait pas la résurrection des morts et qui pourtant admettait le Tanakh. C'est quand même bizarre, comment ils ont lu ces versets-là? Alors ils ont objecté, les chrétiens, ils ont dit non, pas du tout, Védilma peut-être, Metim Sheyechia Yecheskel. Peut-être qu'il s'agit des morts ressuscités par Ézéchiel. Et donc ça ne prouve rien. Bon, ça prouve quand même quelque chose, qu'il y a résurrection des morts quand même. Sans parler, maintenant ça va encore plus loin. Pourquoi ne pas avoir amené comme preuve les ressuscités d'Ézéchiel? Tout simplement. Si déjà on cherche très loin des allusions dans un verset, tu n'as qu'à amener des versets explicites qui racontent qu'Ézéchiel a ressuscité les morts. Ça prouve donc que la Guémara pense que les morts d'Ézéchiel ressuscités ne prouvent rien. Mais pourquoi? Et c'est admis aussi bien par Rabban Gamliel que par les chrétiens et par les sadducéens. Oui. Ils sont morts ensuite. Et alors? Ils sont morts ensuite. D'abord, c'est pas écrit qu'ils sont morts ensuite. Ça, c'est la tradition rabbinique qui le dit. Mais dans le texte, il n'y a pas écrit qu'ils sont morts ensuite. Tout simplement parce que le texte d'Ézéchiel ne parle pas de la résurrection des morts, point à la ligne. De quoi il parle? Alors, pour savoir, comment de? Du retour d'Israël sur sa terre. Là, tu dis? Et si on devait voir? Pour cela, il faut consulter le texte dans Ézéchiel. Ce que je vais faire, d'ailleurs. Je vais me servir du livre d'Ézéchiel. C'est dans Yéhézkel, au chapitre, si je ne me trompe, hein, la Metzain, c'est ça, oui, c'est ça, 37. Haïta la yad Hashem, la main de Dieu fut posée sur moi. Ça veut dire quoi, la main de Dieu fut posée sur moi? Oui? Ou se posa sur moi? Ça veut dire qu'il a prophétisé. Donc ça veut dire que tout ce que nous voyons maintenant n'est pas du réel, mais c'est une vision. Une vision que l'on montre à Ézéchiel. D'accord? C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que si vous aviez vu Ézéchiel au moment de le faire, au moment où il raconte tout ça, vous n'aurez rien vu. Il a une vision. Et qui s'y voit dans la vision? Vayotziedi beruach Hashem, il me fit sortir par le souffle de Dieu. Vayenicheni betoch habika, il me déposa dans la plaine. Vehi melea atzamot, elle était remplie d'ossements. Vehi virani alehem saviv saviv, il me fit tourner autour d'eux, tout autour. Vehine, et voilà. Rabot meod alpene abika, ils étaient nombreux sur la face de la plaine. Vehine yeveshot meod, ils étaient très secs. Vayomer Elai ben Adam, il me dit, fils de l'homme, Atihyena ha'atzamot ha'ele, est-ce que ces ossements vivront? Pa'omar, je répondis, Adonai Elohim atayadata, éternel Dieu, c'est toi qui le sais. Vayomer Elai, il me dit, Hinabe ala atzamot ha'ele, prophétise sur ces ossements. On entend la voix caverneuse, ça fait un peu Macbeth. Vermarta alehem, et tu leur diras, Haatzamot ayeveshot, ossements desséchés, Shim'o devar Hashem, entendez la parole de l'Éternel. Quoi maradona Elohim la Haatzamot aele, ainsi par l'Éternel Dieu à ses ossements. Iné, voilà, animevi bachem ruach, je vais amener en vous un souffle, virhietem, et vous vivrez. Venatati alehem gidim, je mettrai sur vous des nerfs. Ve'aliti alechem bassar, je ferai grandir sur vous de la chair. Ve'karamti alechem or, je susciterai une peau. Venatati bachem ruach vichitem, je donnerai en vous un souffle et vous vivrez. Vidartem, ki ani Hashem, et vous saurez que je suis l'Éternel. Venibeti kasher tzuveti, je prophétisais alors comme on me l'avait ordonné. Vayi kol ki navi, il fut une voix lorsque je prophétisais. Vinerach, et alors un tremblement. Vatikrevu atzamot etzem el atzmo, et les ossements se rapprochèrent l'un de l'autre. Veraiti, veine alehem gidim, vasarala, et j'ai vu que des nerfs et de la chair montaient. Vaikram alem ormilmala, et qu'ils se recouvraient de peau au-dessus. Veruachenbaem, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Vayomer ela, innabe la ruach, il me dit, prophétise vers le vent. Là, la question se pose, mais d'où vient le vent? Inabe ben Adam, prophétise, fils de l'homme. Certains savent. Ve'amarta et la ruach, et tu diras au souffle, quoi maradna Elohim, ainsi par l'Éternel Dieu. Mais arba ruchot boya ruach, des quatre coins vient le vent. On voit d'où il vient maintenant. Hein, d'accord? Ufhi ba arugim haele v'yichyu, et souffle dans ces tués pour qu'ils vivent. Vinabeti kasher tzivani, et je prophétisais comme il me l'avait ordonné. Vatavo bahem aruach, le souffle vint en eux. Vayichyu, ils vivèrent. Vayamdu al raglem, ils se levèrent sur leurs pieds. Ha'il gadol meod meod, une très très grande armée. Alors jusque-là, c'est la vision. Alors, est-ce que c'était une résurrection des morts ou pas? Certainement pas, c'était une vision. Si c'est une vision, quand je rêve que j'ai gagné $1 million, est-ce que le lendemain je peux aller m'acheter une maison avec ça? Non. D'accord? Ce n'était qu'un rêve, oui. Oui, bien sûr. Fulgurante question. Je vais reprendre ta question. La question que tu poses, c'est si les chrétiens admettent ce texte, donc ils admettent que Dieu est susceptible de ressusciter les morts, puisque ça a été montré en vision à Ézéchiel, n'est-ce pas? Réponse. Ils savent très bien que cette vision ne représente pas la résurrection des morts. Et comment est-ce qu'ils le savent? Parce qu'ils ont lu le verset d'après. Vayomer Elai ben Adam, il me dit, fils de l'homme, Hatsamot Aele, ces ossements que tu as vus, c'est quoi? Kol Bet Israël Hema, c'est toute la maison d'Israël. C'est-à-dire que les ossements desséchés représentent le peuple juif. D'accord? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont en exil. Hine Omrim, voilà qu'ils disent, Yaveshu Atzmotenu, nos ossements sont séchés. Ve'avda tikvatenu, nous avons perdu l'espoir. Nixarnu lanu, c'en est fait de nous. C'est-à-dire que ce que dit le peuple juif, c'est un peuple vivant. Nous sommes des ossements desséchés en exil. D'accord? Donc, si vous rencontrez par exemple un responsable communautaire, rabbinique ou autre, en Angola, vous dites, je suis heureux de vous rencontrer, vous êtes un bel ossement desséché. N'est-ce pas? Comment? Mais c'est le prophète qui le dit, monsieur le rabbin, ne vous fâchez pas. D'accord? C'est-à-dire, le prophète nous dit, voilà, les enfants d'Israël dans la galoute, ce sont des ossements desséchés. Des ossements desséchés, où est-ce qu'on les met au fait? Dans des tombeaux. Donc vous allez au centre communautaire, ou à la synagogue, et vous voyez, donc, un tombeau rempli d'ossements desséchés. C'est ce que dit ici le prophète. Bon. Ah, parce qu'on va voir la suite tout de suite. La reine inavé, c'est pourquoi tu dois prophétiser vers Martha, Alehem, et que tu leur dises. Ko amar Adonai Elohim, ainsi par l'Éternel Dieu, hine anipoteach et kivrotechem, voici que je vais vous ouvrir vos tombes. Ve'aliti etrem kivrotechem, ami, et je vous ferai monter de vos tombes, mon peuple. Ve'veti etrem et l'admat Israël, et je vous amènerai sur la terre d'Israël. Vidartem, et vous saurez, qui ani Hashem, que je suis l'Éternel. Bifitri et Kivrotechem, lorsque j'ouvrirai vos tombes. Ou Ve'aloti et Rem Kivrotechem, ami, et lorsque je vous ferai monter de vos tombes, mon peuple. Ve'natati Ruchi Bachem Virchitem, je mettrai mon souffle en vous, vous vivrez. Ve'inarti et Rem Aladmatrem, et je vous déposerai sur votre sol. Vidatem Kiani Hashem, et alors vous saurez que je suis l'Éternel. Dibarti Ve'asiti Noum Hashem, j'ai parlé et j'ai fait. Parole de l'Éternel. Donc le texte est bien clair. Ça ne parle pas de la résurrection des morts. Ça parle du retour d'Israël sur sa terre. Or, pour les chrétiens, quand est-ce que ça s'est passé, le retour d'Israël? À l'époque du deuxième temple. C'est-à-dire que la théologie chrétienne dit que les promesses qui ont été faites par les prophètes, que nous reviendrons sur notre terre, ont été accomplies déjà. Elles ont été accomplies puisqu'il y a eu l'époque du deuxième temple. D'accord? Et donc, il n'y a rien à espérer qu'il y ait un troisième temple, un troisième retour, etc. D'accord? Vous avez compris? C'est ça le principe. Donc, ce que disent les chrétiens à Rabban Gamliel, c'est vrai que le prophète parle d'une résurrection, mais d'une résurrection passée, qui n'a plus de conséquences sur l'histoire, puisque vous êtes un peuple qui a eu sa gloire à un moment dans l'histoire, mais c'est fini. Oui. Pourquoi Rabban Gamliel veut tellement faire entendre raison aux chrétiens? D'abord, ce n'est pas lui qui a eu l'initiative, c'est eux qui sont venus. Pourquoi est-ce qu'il leur répond? Rabban Gamliel veut leur faire faire teshuva. Oui, ce sont des juifs, ici, les minimes en question. C'est la première secte chrétienne qui était faite entièrement, exclusivement de juifs, et qui faisaient encore partie du peuple d'Israël à l'époque. D'accord? Donc, ce n'est qu'au temps de Rabban Gamliel qu'ils ont été éjectés du judaïsme. Enfin, à ce moment-là, il y a encore des relations intérieures, et donc il y a un espoir de leur faire faire teshuva. Oui? Ah, rien, j'ai aucune preuve de ça. D'accord? Disons, pour savoir, de manière générale, que les promesses faites par les prophètes du retour ne se sont pas réalisées lors du deuxième, mais seulement dans le troisième, ça c'est un débat en soi. Par exemple, nous avons un texte de Rabbi Chisaï Kreskas qui dit que à l'époque du deuxième temple, en fait, c'était minable. C'est-à-dire, la majorité du temps du deuxième temple, nous étions sous domination étrangère, la majorité du peuple n'était pas en Eretz Israël, donc tout ça c'était du toc. Comme c'était du toc, il faut vraiment le réaliser tel que les prophètes l'ont dit. Donc il faut pour cela un troisième temple. D'accord? C'est là-dessus que nous ne sommes pas d'accord avec les chrétiens. Mais rien n'empêche de dire qu'au niveau du pshat, toutes les prophéties se sont réalisées à l'époque du deuxième temple, disons de manière médiocre. D'accord? Oui? Ouais? Et alors? L'Admat Israël, il y a écrit. Admat Israël. Le sol d'Israël. Il n'y a pas écrit la terre. Il n'y a pas écrit Eret Israël, il y a écrit Admat Israël. Oui, la première fois. Dans la deuxième fois, il y a écrit Admatam. D'accord? C'est vrai, on peut se demander pourquoi il n'y a pas écrit Eret. Mais c'est évident qu'il s'agit quand même du sol qui appartient à Israël. Donc, ils ne sont pas d'accord. Et donc, il leur amène une troisième source. Minaketubim. Tu voulais dire quelque chose à propos de la deuxième? De la deuxième source, vous voulez dire quelque chose tout à l'heure? Ah non, bon, on l'a dit, c'est pas grave. Bon. Ou Mina Ketubim. Non, pardon. Mina Ketubim, c'est dans la sixième ligne large. Au deuxième mot. Petite remarque technique que nous avons déjà fait. Le prophète Ézéchiel, en français, se dit en hébreu Yehezkel. Et non pas Yehezkiel. Comme ont souvent l'habitude les francophones de dire. Yehezkel. Bon. Mina Ketubim. Et ils l'ont tiré également des prophètes. Des hagiographes. Géographes. Dirtiv, ainsi qu'il est dit. Et là, il y a un verset de Shira Shirim. Vehikech keyen hatov. Ton palais est comme le bon vin. Olech les dodi, les mécharim. Qui va directement auprès de mon bien-aimé, Dovev Siftei Yeshenim, qui fait parler les lèvres des dormeurs. C'est-à-dire quand vous donnez du bon vin à quelqu'un, même s'il s'endort, si le vin était bon, il parle. D'accord? Il parle dans son sommeil. D'accord? C'est ce que dit. Et donc l'amant dit à sa bien-aimée dans le Shirashirim, ton palais est comme un bon vin. D'accord? Bon, alors ça veut dire quoi cette histoire? Le palais est comme un bon vin. Un vin qui fait parler les dormeurs. Alors, le Shirashirim est considéré comme une parabole. C'est un chant d'amour, mais un chant d'amour qui implique toutes les modalités de l'amour, y compris de l'amour entre Israël et son créateur. Donc, dans l'amour entre Israël et son créateur, on parle également d'un vin qui fait parler les dormeurs. C'est quoi les dormeurs dans l'image? Ce sont les morts. Si un mort se met à parler, c'est donc qu'il a ressuscité. Donc, il y a une source de la résurrection des morts dans le Shirashirim. Oui. Non, elle n'était pas vraiment claire. Elle parlait justement d'un retour politique, d'une résurrection politique. Tandis que dans le Shirashirim, c'est pas du politique. À savoir, peut-être, on va voir. Je sais pas, on va voir. Bon. Donc il leur a amené ce verset. Il est convaincant ce verset. Ils ont répondu, Védilma, mais peut-être qu'il faut le lire autrement. Comment faut-il dire? Rahouche marachan sifvate be'alma. Ils ne font qu'agiter mécaniquement leurs lèvres. Que Rabbi Yochanan, comme disait Rabbi Yochanan. De'ama Rabbi Yochanan, car ainsi disait Rabbi Yochanan. Mishum Rabbi Shimon ben Yehotzadak, au nom de Rabbi Shimon, fils de Yehotzadak. Kol mishenemra alacha mishmo, mishmo ba'olamaze, toute personne dont on transmet un enseignement dans ce monde. Siftotav dovevot bakever, ses lèvres murmurent dans la tombe, chez Nehemar, dovev sifte yeshenim, ainsi qu'il est dit, il fait murmurer les lèvres des dormeurs. Donc les chrétiens disent, mais nenni pas du tout, ce que ce verset ne parle pas de la résurrection des morts, il parle de quelque chose d'un peu macabre, il s'agit d'un mouvement des lèvres des morts dans la tombe. Oui. Oui, mais Rabbi Yochanan dit que c'est vrai. Oui, bon, on n'a pas besoin d'une preuve concrète, on a besoin d'une preuve scripturale, tirée des Écritures. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, il a lu comme ça. Non, il a lu le Shirashirim. Je comprends pas. Il amène un verset de Shirashirim. Pourquoi vous cherchez ailleurs? Alors qu'il vous dit d'où est-ce qu'il a tiré ça? Dovel Sifte Yeshelim. Il fait murmurer les lèvres. Oui, il amène le verset de Shirashirim, bon flanc. Alors, c'est pas ça que dit Rabbi Yochanan. Pourquoi chercher midi à 14h? Rabbi Yochanan nous dit la manière dont il comprend le verset. Il comprend que ça veut dire que quand on cite un enseignement de quelqu'un qui est mort, ses lèvres s'agitent dans la tombe. D'accord? Maintenant, j'ai un petit problème. Vous y croyez, ça? Non? Mais c'est écrit dans la Gemara, la sainte Gemara. Vous allez. C'est une image, évidemment que c'est une image. C'est-à-dire que si je cite par exemple un enseignement de Rashi, ça veut dire que Rashi continue à vivre. Ses paroles, les paroles de Rashi continuent à être transmises. C'est ça que ça veut dire. C'est comme si Rashi n'avait pas arrêté de parler. Parce que vous savez qu'on n'a pas trouvé la tombe de Rashi à Troyes. On sait que Rashi a été enterré à Troyes, mais on ne sait pas où. Alors, si on prend au sérieux que la manière dont les chrétiens ont compris l'enseignement de Rabbi Yochanan, alors ça serait très simple, il suffit de se promener à Troyes, dans le vieux cimetière, et de voir où est-ce que ça bouge. Parce qu'on n'arrête pas de citer Rashi. N'est-ce pas? Vous pouvez même, d'ailleurs, vous amener là-bas, vous lisez Rashi, en cherchant la tombe, et voilà, ah, ça bouge, ah ben voilà, c'est là qui est enterré. D'accord? Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire, c'est évident que un juif, quand il lit cet enseignement de Rabbi Yochanan, le comprend comme vous l'avez compris, comme étant une image. Tandis que le chrétien, comme il est inspiré par le paganisme, il a une tendance à voir les choses sur le plan mécanique, de la magie. Vous citez un mort, et puis brusquement, vous voyez que tac, ça marche là. Oui, les chrétiens se sont servis d'une source juive, mais ils l'ont mal compris. Mais non, j'aimerais comprendre quand même pourquoi est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du christianisme et du judaïsme? Il y a un texte, non pas un texte, il y avait un anglais du nom de Arnold Toynbee. Vous avez entendu parler de Arnold Toynbee? Non. Arnold Toynbee était un des plus grands historiens du XXe siècle. Non seulement il était historien, mais il a écrit une encyclopédie gigantesque dans laquelle il faisait, en cinq gros volumes, une analyse des civilisations humaines. Il a analysé, je crois, 36 ou 37 civilisations différentes pour essayer de dégager des règles de l'histoire. Je vous rappelle tout de suite que Toynbee était chrétien. Et il a essayé de voir s'il n'y avait pas des règles. Comment est-ce que ça marche, les civilisations? Il est arrivé à une conclusion gigantesque qui aujourd'hui a l'air d'une banalité, mais quand il l'a dit, c'était quelque chose de très nouveau. Il a dit que toutes les civilisations connaissent trois phases. Une longue phase de gestation, c'est-à-dire un temps pendant lequel la nation en question, la civilisation en question, est en train de se former. Ce sont les grandes époques épiques, avec les légendes autour des débuts de la nation. Comment ? Après, c'est l'apogée. Génial, tu connais ça. C'est-à-dire, après, il y a l'apogée. L'apogée, c'est le moment qui est assez court dans l'histoire, où la nation arrive à son mûrissement, et alors elle donne à l'humanité, au trésor de l'humanité, ce qu'elle peut donner, son fruit. C'est comme une naissance. Et puis après, il y a une troisième phase, longue aussi, de décadence, où la nation disparaît de l'histoire parce qu'elle a rempli son rôle. D'accord ? Comment ? Alors ce qu'il a dit, il a vu que c'était vrai pour tous les cas. Et puis pour le judaïsme, il a vu qu'il y avait deux moments, mais pas le troisième. Le premier moment, c'est toute l'époque de gestation, c'est-à-dire depuis Abraham jusqu'à Jésus. Et puis après, le peuple juif a donné au monde ce qu'il pouvait donner, c'est-à-dire le christianisme. Et il a oublié de disparaître. Il aurait dû, selon la règle qui gouverne toutes les civilisations, eh bien, il aurait dû finalement disparaître de la face de l'histoire. Hegel aussi, il a un truc comme ça. Oui. Non, mais chez Hegel, il y a également, c'est récupéré par la synthèse. Oui. Non, mais pas comme une nation, mais comme un fruit. Un fruit. Est-ce que le christianisme aussi ne devrait pas disparaître un jour? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Il faudrait la poser à Tony. Mais en tout cas, il a donc cherché une explication. Il l'a trouvée. Il a inventé la notion de peuple fossile. C'est-à-dire le peuple juif s'est fossilisé. Et c'est en fait, le peuple juif a l'air d'être vivant, mais en vérité, il est mort. Et donc, il s'agite mécaniquement dans la tombe, un peu comme l'interprétation des chrétiens qui parlent avec Rabban Gamliel. Ça continue à bouger, mais en fait, c'est mécanique. Alors, il a eu un petit problème, Toynbee, lorsque l'État d'Israël a été fondé. Ça, il a dit, ça c'est un peu fort. On a vu déjà un robot s'agiter, mais ressusciter comme ça, un mort, revivre, ça c'était un peu trop fort pour lui. Alors, il a cherché une explication. Il l'a trouvé. Il a dit en fait, les juifs ne sont pas un peuple vivant, il est toujours un peuple fossile, mais c'est un fossile dans lequel on a injecté de la violence. Qui a fait ça? Les Allemands. Les Allemands sont un peuple très vivant, qui se sont acharnés sur ce cadavre, et donc ils lui ont injecté de la violence, et cette violence est exercée aujourd'hui en Palestine sur les Arabes. Donc en fait, ce n'est pas des juifs qui font la guerre aux Arabes, ce sont des Allemands qui font la guerre aux Arabes par un cadavre interposé. D'accord ? C'est à peu près comme ça qu'il a expliqué. Quand il a dit ça, il était au Canada. Et il y avait au Canada, à l'époque, un ambassadeur d'Israël, Yaakov Herzog, Zechono Livracha, qui était, entre autres choses également, Talmid Racham, et qui l'a convoqué à un débat public. Il a dit, étant donné la gravité de vos affirmations, je demande à vous confronter en public. Alors il y a eu un grand débat qui a été enregistré, et tout le reste, je l'ai entendu d'ailleurs, qui a été imprimé, qui a été une victoire fulgurante pour Yaakov Herzog. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que à la fin du débat, Yaakov Herzog dit que le verset qui convient au peuple juif, c'est Lo amut ki ehyeh. Je ne meurs pas, je vis. Ben, sa père Maaseya pour raconter la louange de Dieu. Alors ça a été un grand Kiddush Hashem, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir la suite. Dans les années ultérieures, Toynbee a eu une évolution intérieure. Et il a reconnu que la Shekhina, la présence de Dieu, n'avait pas quitté Israël. Il n'était pas loin, à la fin de sa vie, de se convertir au judaïsme. D'accord? Alors, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand le cadavre ressuscite, le cadavre national ressuscite, alors on a la preuve tangible que les morts ressuscitent. Et c'est exactement ce qui se passe dans le débat avec Rabban Gamliel. Ce que dit la Guémara, Ad she'amar lahem ikrazeh, jusqu'à ce qu'il leur ait amené ce verset. Et il y a un verset qui les a convaincus quand même. C'est quoi? Asher nishba Hashem lavotechem latet lahem, lachem lo ne'emar ela lahem. Mikan litriat amitim mina Torah. Et que Dieu a juré de donner à vos ancêtres, il y a écrit de leur donner et non pas de vous donner. Ce qui veut dire que de là nous avons la preuve de la résurrection des morts dans la Torah. Ça ressemble à la preuve amenée par Rabbi Simaï plus tôt. C'est-à-dire que dit le verset en question? C'est que le retour d'Israël sera la réfutation du christianisme. Et donc ils ont admis, les chrétiens en question ont admis, ceux qui ont discuté avec Rabban Gamliel, ont admis que le retour d'Israël était une preuve de la résurrection, puisqu'une nation morte peut ressusciter. D'accord? Et donc, en fait, c'est une préfiguration du retournement d'Arnold Toynbee, comme c'est écrit dans la Guémara. D'ailleurs, vous n'avez qu'à compter, si vous passez des écarts de 18 lettres, vous voyez que ça donne Arnold Toynbee. Donc, j'invente n'importe quoi, mais c'est pas grave. Allez. Bon. Est-ce que là vous suivez? Oui. Oui, bien sûr, parce que s'il y a une résurrection nationale, ça veut dire que c'est comme ça que l'histoire fonctionne. Donc ça veut dire que les individus aussi peuvent ressusciter. Il suffit de voir qu'il y a une catégorie d'êtres dans laquelle on voit une résurrection, pour savoir que la résurrection est possible. Que ça fonctionne comme ça. D'accord? Ça n'a rien à voir. C'est comme, ouais, ça peut servir aussi. C'est comme une résurrection. Oui, mais le problème, c'est que dans la résurrection des morts, même quelqu'un qui n'a plus de cellules du tout peut ressusciter. On n'a pas. Oui, mais on n'a pas vraiment besoin de ça. C'est-à-dire, si Dieu veut ressusciter les morts, il ressuscite point à la ligne. Ouais. Si ça vous convainc, ces machins-là, je veux bien. Mais. Ouais. Si ça vous va. Mais en tout cas, rappelez-vous que les trois preuves, l'une de la Torah, l'autre des Nevi'im, l'autre des Kitouvim, en fait, sont basés sur l'idée de l'éternité du peuple d'Israël, ça c'est dans la première preuve. La deuxième sur l'éternité de la terre d'Israël. Et la troisième sur l'éternité de la Torah. Donc, ce sont ces trois éléments qui sont remis en question par le christianisme et qui finalement sont prouvés par le retour d'Israël sur sa terre. Oui, qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hatché Amar l'a émicrasé. Jusqu'à ce qu'il leur a amené ce verset. Oui, c'était Rabbi Simaï. Ben, parce qu'ils n'avaient pas entendu Rabbi Simaï. Ils discutent avec Rabban Gamliel. Là. Non, il n'a pas amené ce verset. C'est Rabbi Simaï qui l'a amené dans la Sugya auparavant. Non. Non, il parlait du retour au temps d'Ézéchiel. Est-ce que ce verset? Eh bien, parce que du temps d'Ézéchiel, les apôtres n'ont pas ressuscité. Je crois que la Gemara est écrite avant 1900. Oui, enfin, pourtant que je sache, oui. On peut amener des preuves. Oui, ça veut dire, mais il voit qu'il y a une promesse de ça. C'est promis. C'est-à-dire, 1948, ce n'est pas passé par hasard. Ça s'est passé parce qu'Akadosh Baruch Hu avait promis que ça se passait. Ce qui pose un problème, c'est-à-dire que nous savons que l'État d'Israël doit être établi parce que c'est une promesse de Dieu. Par contre, la Shoah, ce n'était pas obligatoire. Ça aurait pu ne pas se passer. Il n'y a pas de promesse qu'il y aurait une Shoah. Oui. Très bonne question. Comment se fait-il qu'il y a encore des églises ouvertes? Alors, il y a, chez les chrétiens, différentes stratégies de réponse à cela. D'accord? Selon les différents mouvements du christianisme. Certains disent, il y a cette position qui existe chez certains chrétiens, l'histoire, l'État d'Israël, c'est passager. L'État d'Israël, c'est passager, ça ne durera pas longtemps. Certains disent, non, ce n'est encore rien, puisqu'on n'a pas encore conquis Jérusalem. C'est-à-dire qu'on a conquis Jérusalem. On dit, oui, mais vous n'avez pas encore construit le temple. Ça, c'est vrai. Un jour, des chrétiens m'ont demandé, des ecclésiastiques, est-ce que vous allez reconstruire le temple? J'ai dit oui. Et une bonne sœur a failli s'évanouir. Et quand elle a entendu, elle m'a dit, c'est pas possible ce que vous dites, monsieur le rabbin. Parce que d'après ce que vous dites, ça voudrait dire que des hommes vont construire le temple. Alors que d'après la tradition juive elle-même, c'est le Messie qui doit le reconstruire. Alors j'ai dû, avec beaucoup de politesse, lui faire remarquer que d'après le judaïsme, le Messie est un homme. Donc ça, c'est une première possibilité. Certains diront non, il y a un État d'Israël, mais cet État doit être sous le contrôle de la communauté internationale. Et s'il est contrôlé par la communauté internationale, donc ça veut dire qu'il n'est pas véritablement indépendant. C'est ce qui se cache derrière beaucoup de discours de la communauté internationale par rapport à la politique israélienne. Vous n'avez pas le droit de faire tout ce que vous voulez. Vous êtes un État pas vraiment indépendant. Il y a cette position-là. D'ailleurs, on la trouve par exemple chez un Français dont vous avez peut-être entendu parler, il s'appelait Charles de Gaulle, c'est ça. Charles de Gaulle qui disait, bon d'accord, l'État d'Israël ça va, mais n'exagérez pas. Elle n'est pas trop loin. Et puis, il y a une autre position, celle de chrétiens sionistes. Ça se recrute essentiellement chez les évangélistes, par exemple, les évangéliques, qui affirment que les prophéties doivent se réaliser, et que donc les chrétiens se sont trompés par rapport à ça. Et donc, ça doit se réaliser. Il faut que la société dans laquelle Jésus est né soit rétablie. Donc, il faut que les Juifs conquérissent leurs terres et accomplissent les mitzvot pour que Jésus puisse revenir dans la société à laquelle il était habitué. Et donc, là, les Juifs le reconnaîtront. Il y a également une autre position qui consiste à se dire, ah ben ça alors... C'est donc vrai ce que disent les Juifs, et donc ils abandonnent le christianisme et souvent se convertissent au judaïsme. D'accord? Il y a également une autre position qui consisterait à dire qu'il faudrait que le christianisme se voit comme les délégués d'Israël pour les nations. Ce qui impliquerait quelques changements théologiques tels que l'abandon de la Trinité, de l'incarnation et autres trucs de ce genre. Bon. Catholique. Oui, bien sûr. Oui. Où en étais-je? Donc, c'est ça qu'il leur a dit. Après, il y a ici une petite remarque quand même de la Gemara. Veillez Shomrim. Et certains disent, Minamikra Aze, qui leur a amené ce verset-là, Amar Lahem, il leur a dit. Et là, il amène un verset de Devarim, un peu différent. Veatem Adevekim Bashem Elohechem, quant à vous, qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, Hayim kulechem hayom, vous êtes tous vivants à ce jour, ma hayom kulechem kayamim, de même qu'aujourd'hui vous êtes tous vivants, af la'olam haba kulechem kayamim, de même dans le monde à venir vous serez tous debout, existants. Advekim ça veut dire attaché, collé. Ouais, devek c'est de la colle. D'accord? D'accord. Et donc, c'est ça qu'il leur a répondu. Il leur a dit, il est dit Vatem Adevekim Bashem Elohim Chaim Kulchem Ayom. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a une possibilité, même avant le retour d'Israël, de connaître l'éternité à travers le peuple juif, mais pour ça il faut y rentrer. Je vais vous, pour bien vous faire comprendre ce que je veux dire, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait, au temps de Charlemagne, il y avait un diacre, dont j'ai oublié le nom, qui s'est converti au judaïsme et il a pris le nom de Élazar. Un diacre, c'est quelqu'un dans la hiérarchie ecclésiastique. D'accord ? Le diacre en question a été espionné des juifs. Et donc, il s'est fait passer pour un juif. Et il a été tellement impressionné qu'il s'est converti au judaïsme. Ça veut dire que, même pendant le temps de la galoute, si on rentre dans l'intériorité de la vie juive, par effraction même, alors on peut rencontrer la présence de la Shekhina. C'est-à-dire, je vais vous raconter un deuxième cas de ce genre, un cas intéressant qui s'est passé au 19e siècle, pas au temps de Charlemagne, mais au 19e siècle, il y avait à Lyon, certains de vous sont de Lyon ici, je crois, oui. Ah, tu es de Lyon, oui. Il y avait un catholique du nom de Aimé Palière. Tu as entendu parler de lui, probablement. C'était un Lyonnais. Un Lyonnais qui un jour qui avec une très grande recherche spirituelle, qui se posait beaucoup de questions, qui un jour sur le quai de Lyon se promenait et rentre dans une synagogue. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans une synagogue par hasard? Mais enfin, ça arrive. Il rentre dans la synagogue et c'était comme par hasard le moment de la Ne'ila de Kippour. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Et il a vu ce qui se passait, il a été violemment impressionné, et il a compris que la Shekhina était encore présente en Israël. Et donc il a décidé de se convertir au judaïsme, ce qu'il n'a pas fait finalement. Il a voulu devenir Noachide, mais enfin c'est toute une histoire. Mais enfin ce qui est intéressant, quoi ? Noachide. Ben Noah, c'est-à-dire un homme vertueux des nations, qui accomplit les 7 commandements donnés à Noah. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le 27 Cheshvan. Et le 27 Cheshvan est le jour d'une fête pour les Noachides du monde entier. C'est une fête que j'ai innovée. Non, c'est vrai, c'est moi. Et cette fête, parce que c'est le jour où Noach est sorti de l'arche et qu'il a reçu les 7 commandements noachides. Et donc, je reviens à la maintenant d'une émission par Internet avec un groupe de Noachides de l'Inde, du Sud, avec lesquels je me suis entretenu tout à l'heure. Et hier soir, c'était avec un groupe de Noachides de Russie. Enfin bref, et aujourd'hui à Rotterdam, il y a également une petite festivité autour de ça. Ils ne viennent pas forcément en Israël, vraiment des hindous, là je leur ai parlé par Internet, par Skype. Oui. En tout cas, je raconte ça pour vous dire qu'il y a une possibilité, pendant le temps de l'exil, de rencontrer la lumière d'Israël, mais il faut rentrer à l'intérieur. Ça me rappelle une petite histoire. Les histoires me traversent là maintenant. Et j'ai vu un compte-rendu écrit par un délégué du roi d'Espagne en l'an 1500 quelque chose. L'an 1500 quelque chose, c'était lorsque la ville d'Oran, en Algérie, avait été conquise par les Espagnols. Dans la ville d'Oran, il y avait une communauté juive. Il n'était pas sous le coup du décret d'expulsion des juifs, puisque l'expulsion des juifs d'Espagne s'est faite en 1492. Donc, un roi d'Espagne dominait la communauté juive d'Oran, mais il ne les a pas expulsés. Mais il y avait un délégué du roi qui est allé donner un compte-rendu sur ce qui se passait dans la communauté. Et il dit, c'est très embêtant, je pense qu'il faut recommander à Sa Majesté de les expulser. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un comportement tellement droit que ça risque de déstabiliser la foi des chrétiens. C'est-à-dire, quand on rentre dans leur maison, on se rend compte qu'ils sont des gens très purs, très bien, etc. C'est très embêtant, donc il faut les jeter. D'accord ? Intéressant ce genre d'argument. Et donc, en tout cas, il y a ici cette idée de « Ve'atem advekim Hashem Elohechem » si vous êtes attaché à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tout suivant à ce jour. Vous voulez dire quelque chose ? Oui. Alors on est un petit peu, on est en léthargie. C'est-à-dire on est mort par rapport à l'extérieur, mais on est vivant dans la communauté. C'est-à-dire il y a une vie sépulcrale qui se passe. N'est-ce pas? Dans la tombe, ça bouge un peu. D'accord? Et le Rav Tzvi Yehuda Kouk expliquait ce verset de la manière suivante. Je reprends ici le verset. Ve'atem adevekim bashem Elohechem chayim kulechem ayom. Alors quand on entend qu'il faut s'attacher à Dieu, on est extrêmement surpris. On se dit, c'est pas à moi qu'on a parlé. Alors le verset dit non. Ve'atem, c'est à vous que je parle. Alors si c'est à moi qu'on parle, on ne me demande pas quelque chose de très fort. Et on dit non, advekim, vous êtes collé. C'est très fort. Collé, dans ce cas-là, pas collé. Collé à mon maître, collé à mes idées, etc. Non. C'est advekim, bashem Elohechem. Être collé, et c'est de moi qu'on parle, et que je dois être attaché, adhérent à l'éternel, c'est certainement pas de mon vivant. Et donc le verset continue, non, haïm. Quoi, être attaché à l'éternel de son vivant, il n'y a que quelques élus qui arrivent. Et le verset dit non, kulchem, tous attachés à l'éternel. C'est certainement quand on est déjà très vieux, qu'on a fait beaucoup de travail. Et la réponse est non, hayom, aujourd'hui. D'accord? Donc on peut être tous être attachés à l'éternel notre Dieu, aujourd'hui même. Amen. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.